faits, chroniques historiques, hétéroclites et tout azimique. Nous sommes à la toute fin du 19e siècle, au cœur de la Troisième République. Une République jeune encore, mais déjà battue par des vents contraires, des scandales, des cabales et des ambitions contrariées. Dans les rues de Paris, les omnibus tirés par des chevaux, les pavés résonnant sous les roues, les kiosques à journaux croulant sous les feuilles polémiques, les cafés enfumés où se refont chaque soir la morale, l'armée et la nation. Les boulevards grouillants où les camelots aboient les titres les plus tapageurs. La France sort à peine de ses défaites passées, la guerre de 1870, la commune, et tente d'affirmer les bases d'un régime parlementaire où chacun veut parler, où chacun veut crier plus fort que l'autre. C'est dans ce terreau malmené que naît ce qu'on appellera bientôt l'affaire Dreyfus, une détonation politique et morale qui va fissurer les familles, déchirer les amitiés, briser les carrières, mais aussi révéler parmi elles le chemin d'une société vers le droit, la justice et la raison. Et dans cette tempête, parmi les acteurs, les témoins, les braillards, les victimes, l'histoire retiendra un autre épisode singulier, presque théâtral. Un siège en pleine capitale, une forteresse improvisée, un défi lancé à la République en plein cœur de Paris. Un défi qui restera gravé dans les esprits sous le nom de Fort Chabrol. Voici son histoire. Nous sommes en 1894. Dans les bureaux lambrissés de l'état-major, on découvre un document transmis à l'ambassade d'Allemagne, le bordereau. Il accuse un officier français de livrer des renseignements à l'ennemi. Un nom surgit, presque au hasard, Alfred Dreyfus, capitaine d'artillerie issu d'une famille juive alsacienne. Le climat de l'époque est chargé de nationalisme crispé, de méfiance identitaire. La perte de l'Alsace-Moselle hante encore les esprits. L'armée, ébranlée, protège maladivement son honneur. Dreyfus est jugé, condamné, dégradé publiquement, envoyé au bagne sur l'île du diable. Mais rapidement, les doutes s'accumulent. Falsification, incohérence, manipulation. Un autre coupable apparaît, le commandant Esterhazy. Alors, progressivement, des voix s'élèvent. Le colonel Picard, officier lucide qui découvre l'erreur et en est exilé pour avoir voulu dire la vérité. L'écrivain Émile Zola, dont le j'accuse fera trembler le régime. Des journalistes, des avocats, des intellectuels qui refusent que la raison d'État écrase la justice. La France se déchire. Dreyfusard contre anti-Dreyfusard. Républicain contre nationaliste. Universaliste contre identitaire. La République vacille sous le poids des passions. Et dans cette ambiance électrique surgit une silhouette tapageuse, intransigeante, un agitateur persuadé de jouer un rôle historique, Jules Guérin. Jules Guérin n'est pas un personnage de nuance. Il n'est ni intellectuel, ni officier, ni héritier d'une grande famille. Il est né dans le Paris populaire, il a été plombier, ferblantier, un ouvrier solide, habile de ses mains, mais aussi un homme porté par un ressentiment tenace, convaincu que la France est menacée par des forces invisibles. Dans les années 1880-1890, Guérin glisse vers les milieux nationalistes les plus durs. Il fréquente les cercles où se mêlent rancœur sociale, complotisme, xénophobie, discours violents contre la République parlementaire. On le voit dans des réunions houleuses, prenant la parole avec une énergie brute, haranguant les foules sans finesse, mais avec une puissance rythmique indéniable. C'est dans cette dynamique qu'il fonde la Ligue antisémitique de France, organisation bruyante, parfois agressive, attirant marginaux politiques, exaltés en quête de chef, jeunes nationalistes désœuvrés. Guérin n'a pas de doctrine profonde, il compense par une fougue inlassable. Et c'est alors qu'il crée également son instrument principal, le journal L'Anti-Juif. Nous sommes en 1896, le paysage de la presse française est foisonnant. Des centaines de journaux, de feuilles satiriques, de pamphlets circulent pour quelques centimes. La presse est le cœur battant de la ville politique. Dans ce paysage, Guérin lance L'Anti-Juif, titre sans détour, sans ambiguïté. Pas de rhétorique, pas de nuance. Le nom dit tout. Le journal affiche sa haine et sa cible. Le siège du journal se trouve 45 rue de Chabrol dans le 10e arrondissement. un immeuble banal, 4 étages, une façade sans génie. Guérin en fait son QG, imprimerie, bureau, salle de réunion, lieu de passage pour militants exaltés. Très vite, l'anti-juif devient la caisse de résonance de la Ligue antisémitique. On y trouve des articles violemment antisémites, des complots imaginaires, des attaques contre les ministres, contre l'armée républicaine, contre les intellectuels, des appels à la défense de la France trahie. Le journal attire l'attention, les colères, les curiosités. Il donne aussi à Guérin une illusion de puissance. Pour comprendre pourquoi Guérin croira pouvoir tenir tête à la République, il faut évoquer un groupe singulier, les Bouchers de la Villette.
C'est le tango des Bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève, et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
À la fin du 19e siècle, les abattoirs de la Villette sont un monde à part, un univers de force physique, de solidarité virile, de travail rude, de traditions enracinées. Ce sont des ouvriers fiers, directs, souvent pauvres, mais très sensibles au discours nationaliste. Ils voient dans l'armée un symbole sacré, dans les élites un danger et dans la presse polémique un miroir à leur colère. Depuis plusieurs années, la presse de droite les flatte. On les décrit comme le peuple vrai, les patriotes authentiques. Guérin, fin manœuvrier, saisit l'occasion. Il fréquente les cafés proches des abattoirs, serre des mains, lance des discours enflammés sur la France menacée, sur l'honneur de l'armée, sur le complot qu'incarnait Dreyfus. Et lorsque Guérin fonde l'anti-juif, plusieurs bouchers deviennent lecteurs fervents. Certains distribuent même le journal dans leur quartier. Pour eux, Guérin n'est pas un idéologue. Il est un homme du peuple qui tape du poing comme ils aimeraient le faire. Aussi, en 1899, lorsque le gouvernement décide de rouvrir le procès Dreyfus, Guérin s'imagine que les bouchers descendront en cortège jusqu'à la rue Chabrol, formant une masse populaire prête à en imposer à la police. La réalité sera moins glorieuse. Quelques-uns viendront traîner autour du siège, insultant les agents, hurlant leur soutien, mais sans jamais franchir la frontière entre agitation et insurrection. Et quand les jours passeront, ils retourneront à leur étal, à leur travail, à leur famille. Guérin, lui, restera seul. Nous sommes en 1899. Le gouvernement Waldeck-Rousseau accepte la révision du procès Dreyfus. La France s'enflamme, les ligues nationalistes crient à la trahison. On parle de coup d'État. Des manifestations tournent à l'émeute. La justice décide d'arrêter Guérin pour un complot contre l'État. Mais Guérin refuse de se rendre. Il transforme le siège de l'anti-juif en une forteresse. Le 45 rue de Chabrol devient Fort Chabrol. On renforce les portes, on barricade les fenêtres, on perce des meurtrières, on entasse vivres, munitions, matelas. Les pièces du journal deviennent salles de garde, postes d'observation. Les fidèles, une poignée d'hommes exaltés, rejoignent leur chef. Ils croient que le peuple viendra, que les bouchers marcheront, que la nation se lèvera. Le 12 août 1899, la police se présente pour arrêter Guérin, mais elle se heurte à un refus catégorique. Le siège commence. La police encercle l'immeuble, les journalistes affluent, les caricaturistes s'installent, les badauds rient, Paris se régale. À l'intérieur, l'ambiance est un mélange d'exaltation ridicule et d'épuisement nerveux. On chante, on donne des discours, on surveille la rue par les fentes des volets, mais les vivres diminuent, l'eau se fait rare, l'air devient lourd. Au début, le public s'amuse, puis il se lasse. La presse ironise. Fort Chabrol ? Fort ridicule. Mais le siège dure un jour, une semaine, deux semaines, jusqu'à ce que même les plus fidèles comprennent que personne ne viendra. Pendant que Guérin s'enferme dans sa forteresse, la France suit son cours. À Rennes, le second procès de Dreyfus s'ouvre. Les débats sont violents. Zola est en exil. Picard comparaît lui aussi devant la justice militaire. La République retient son souffle. Mais rien, ni émeute, ni insurrection, ne vient troubler le pays. Fort Chabrol cesse d'être une affaire. Il devient un spectacle. Le 20 septembre 1899, après 38 jours, les assiégés manquent de tout. Le gouvernement refuse de négocier. La police coupe l'eau. Quelques heures plus tard, Guérin se rend. Pas de geste héroïque, pas de dernier barou, juste un homme épuisé, défait, qui quitte sa forteresse sous les huées des badauds. À l'intérieur, on découvre un capharnaüm de matelas souillés, de boîtes de conserve vides, d'armes rouillées. Une scène misérable, loin de l'idée d'un fort nationaliste. Guérin est arrêté, son mouvement se délite, l'anti-juif disparaît, les bouchers retournent à leurs abattoirs, la France respire à nouveau. Quelques jours plus tard, Dreyfus est gracié. Au fond, Fort Chabrol ne fut que décor. Le vrai personnage, le moteur, l'obsession, c'est Jules Guérin. Guérin n'était pas un stratège politique, ni un théoricien, ni un penseur. C'était un homme blessé, pétri de rancœur, qui avait trouvé dans l'antisémitisme un drapeau, une identité, une manière d'exister dans le tumulte d'une république qu'il ne comprenait pas. Il s'était créé un rôle, celui du défenseur de la vraie France. Et plus il se sent ignoré, plus il haussait la voix. Plus la société avançait sans lui, plus il s'arc-boutait dans le ressentiment. Fort Chabrol fut son aboutissement, mais aussi sa chute. Là où il rêvait de mener un peuple, il se retrouva enfermé avec quelques fidèles, assiégé dans son propre journal, réduit à son propre écho. Son geste n'a pas renversé la République, il l'a marginalisée. Il a voulu entrer dans l'histoire, il y est entré, mais par la porte étroite du ridicule tragique. Car Guérin n'a jamais compris qu'il n'incarnait pas le peuple, seulement ses colères les plus sombres. Il n'a jamais accepté non plus que son combat ne menait nulle part, ni à une révolution, ni à un mouvement durable, ni à un changement de régime. Quand les assiégés ont capitulé, ce n'est pas seulement un siège qui a pris fin, c'est une illusion. Et quand la poussière est retombée, il ne restait rien. Pas de légende, pas de parti, pas de doctrine. Juste l'histoire d'un homme qui s'est enfermé dans sa propre forteresse idéologique avant d'en sortir brisé. Après la reddition de Fort Chabrol, Jules Guérin est jugé en 1900. Il est condamné à 10 ans de détention dans une enceinte fortifiée. Il les passe à la prison de Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes, un lieu isolé, silencieux, loin de tout ce qui faisait vibrer son ego. Il est gracié en 1905, probablement en raison de l'apaisement politique général. Mais il ne retrouvera jamais l'influence qu'il croyait avoir. La ligue antisémitique s'est délitée, l'anti-juif a disparu, son mouvement s'est dissous. Il tente un temps de revenir dans la vie publique, mais plus personne ne veut le suivre. La France est passée à autre chose. Lui, non. Jules Guérin meurt en 1910, oublié, marginalisé, presque une note de bas de page de l'histoire. L'homme qui se rêvait chef de guerre finit dans le silence, sans disciple, sans héritage politique durable, sans éclat. Son existence se refermera comme Fort Chabrol dans un isolement et dans un délabrement qu'il avait lui-même construit. À la fin de sa vie, il apparaît comme un militant dépassé par une époque qui a déjà tourné la page, figure marginale d'un combat idéologique qui n'a plus d'écho. Son échec politique et sa fin marginalisée soulignent l'importance de la vigilance contre les discours haineux et les manipulations idéologiques. Un rappel toujours d'actualité face aux résurgences d'intolérance. faits des faits. Chronique historique, hétéroclite et tout azimique.